Ce podcast vous est proposé par l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation.
Bonjour et bienvenue à l'écoute des podcasts du film annuel de l'Institut des hautes études de l'éducation et de la formation. Nos podcasts sont construits en lien direct avec les thématiques des fiches du film annuel des personnels de direction afin d'enrichir cette ressource et d'accompagner nos collègues dans leur pilotage au quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de poursuivre le déroulement chronologique du conseil de discipline au regard de l'expertise juridique de Raphaël Mata-Duvigno, maître de conférence en droit public à l'Université de Versailles-Saint-Quentin, président de l'Observatoire du droit de l'éducation, coordinateur du dictionnaire critique du droit de l'éducation publié aux éditions Mare et Martin et expert associé de l'IH2EF. Dans un précédent podcast, nous avions abordé quelques questions d'ordre général à se poser avant de prendre la décision de réunir le conseil de discipline et les points juridiques à respecter lorsqu'il est finalement décidé de le réunir. Aujourd'hui, dans cette seconde partie, M. Mata-Duvigno va nous parler de la réunion du conseil de discipline et de ce qu'il se passe après celle-ci. Bonjour Raphaël Mata-Duvigno, merci beaucoup de nous faire le plaisir de participer au podcast du film annuel et d'accepter de nous éclairer sur les aspects juridiques très nombreux et incontournables pour mener à bien un conseil de discipline.
Alors, la composition du conseil de discipline est différente au collège et au lycée, vous vous en doutez. Par contre, je vais vous décevoir, mais je ne reviens pas sur la composition de chaque conseil de discipline. Je vous renvoie aux articles R511-20-A-24, tant les règles de composition sont particulières en fonction de chaque type d'établissement.
Aucune déception, ça nous permet un petit peu aussi de rechercher par nos propres moyens. Merci Raphaël.
Absolument. Alors,
concernant le quorum.
Alors, concernant le quorum, là je vais être un petit peu plus précis. Le chef d'établissement doit veiller à ce que le quorum soit atteint, alors c'est pas moi qui le dis, c'est le code, là encore, aux articles D511-35 et 36. Le conseil ne peut siéger valablement que si le nombre de membres présents est égal à la majorité plus 1 des membres composant le conseil. Si le quorum n'est pas atteint, de nouvelles convocations sont envoyées. La nouvelle réunion du conseil de discipline doit avoir lieu donc dans un délai minimum de 5 jours et maximum 10 jours. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit. Mais il faut, dans ce cas-là, justifier l'urgence. C'est pas simplement, tiens, il y a urgence. Non, il faut justifier de l'urgence. Quoi qu'il arrive, en tout état de cause, le conseil des disciplines siégera et délibérera valablement, quel que soit le nombre de présents.
Très bien. Alors, concernant le déroulé de ce conseil de discipline.
Alors, à nouveau, je botte en touche, d'une certaine manière, le film annuel est très complet sur la question. Je ne peux que renvoyer, et surtout renvoyer à la lecture très précise, là encore, des articles D511-36 à 42. Alors, le président conduit la procédure et les débats dans le respect de plusieurs principes fondamentaux. Alors, je précise que le président, c'est le chef d'établissement, évidemment. Donc, quels sont ces principes fondamentaux? La confidentialité pour les membres du conseil et le respect du contradictoire. Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus précis. D'abord, la séance du conseil peut juridiquement se tenir en l'absence de l'élève et de ses représentants légaux. Ça, c'est important. Il faut le savoir. Néanmoins, dans ce cas, la portée, vous vous en doutez, la portée éducative d'une sanction s'en trouve considérablement réduite. Ensuite, le chef d'établissement va lire le rapport. Le conseil entend ensuite l'élève et sur leur demande, si on souhaite entendre l'élève évidemment, et sur leur demande, le représentant légal et la personne chargée d'assister l'élève. Le conseil entend également deux professeurs et les deux délégués d'élèves de la classe de l'élève en cause, ainsi que toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information de nature à éclairer les débats, ainsi que d'autres personnes convoquées par le chef d'établissement. Donc, on voit bien que les personnes auditionnées sont potentiellement très nombreuses. On notera surtout que depuis la réforme de 2019, l'audition des témoins mineurs ne peut se faire qu'en présence de leur représentant légal. J'en ai conscience, cela peut engendrer un certain nombre de difficultés. Des élèves qui ne s'expriment pas librement, présents à leurs parents, ou ne pouvant pas être présents du fait de refus de l'impossibilité des parents d'assister au conseil de discipline, hein, ça peut arriver, mais voilà, les règles sont ce qu'elles sont. Les témoignages écrits peuvent certes être lus en séance par le chef d'établissement, mais par analogie avec les règles concernant le témoignage oral, on peut considérer que la lecture ne peut se faire qu'avec l'accord préalable du représentant légal lorsqu'ils ne sont pas rendus anonymes.
Alors justement, sur ce point, pourriez-vous nous apporter une petite précision sur l'anonymat des témoignages ?
Alors, je vais essayer. Je vais essayer d'être un peu plus précis. C'est un sujet très épineux qui a été réglé en partie par la jurisprudence administrative en avril dernier. Alors, ce n'était pas une affaire qui concernait un conseil de discipline d'élèves, mais un conseil de discipline d'agents publics, mais on peut essayer de raisonner par analogie. Il résulte de la jurisprudence administrative, donc, que l'autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent, donc, ou un élève pour le coup, une sanction sur le fondement de témoignages qu'elle a anonymisé à la demande des témoins lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Les témoignages peuvent donc être anonymisés lorsque la communication de l'identité constitue un danger potentiel pour les témoins. Cependant, dans le cadre de l'instance contentieuse engagée par la personne sanctionnée, et si cette dernière conteste l'authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire doit alors produire tous les éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu'elle allègue et tous les éléments de nature à corroborer, les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine donc au vu de ces échanges contradictoires qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
Merci Raphaël pour cette précision. Si on revient donc au conseil de discipline en tant que tel, donc concernant son délibéré.
Alors, le conseil s'est réuni, les auditions ont eu lieu, les présentations, les propos oraux ont eu lieu. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Le président du conseil de discipline va proposer une sanction et la soumet au vote du conseil, donc, qui va délibérer à bulletin secret. Évidemment, je le précise quand même, mais l'élève et ses représentants légaux, les témoins, ne sont plus là au moment du délibéré, évidemment. En cas d'égalité des votes, la voix du président est prépondérante. En l'absence de majorité des suffrages exprimés, sur la sanction proposée par le chef d'établissement, une sanction inférieure est proposée, et ce, jusqu'à l'obtention d'une majorité. Lorsque la majorité est dégagée sur une sanction, l'élève, sa famille et son défenseur sont de nouveau introduits devant les membres du conseil de discipline pour entendre la décision.
Alors justement, concernant ces sanctions, quelles sont-elles ?
Alors, les sanctions, je le répète, elles visent à réprimer des manquements graves. Et les sanctions doivent respecter le principe de proportionnalité. Il convient donc d'adapter la sanction à la gravité de la faute commise, en distinguant notamment les atteintes aux biens et aux personnes. Les sanctions doivent être individualisées. Une sanction ne peut être collective et elle doit tenir compte du degré de responsabilité de chaque élève, du contexte et de sa personnalité. La sanction prononcée, elle doit être écrite, elle doit comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement même de la décision. La sanction, enfin, comme je l'ai déjà dit, elle doit être prévue par un texte dans le règlement antérieur. C'est ce qu'on appelle le principe de légalité des délits et des peines. Pas de peine sans texte. Elle est enfin insérée, la sanction, dans le dossier administratif de l'élève.
Merci beaucoup Raphaël, merci d'expliquer précisément les aspects juridiques de ce conseil de discipline et ce dernier paragraphe sur la proportionnalité et la sanction individuelle. Je pense que nous l'aborderons aussi de nouveau sur un podcast, qui sera davantage lui axé sur la portée éducative du conseil de discipline.
Et je me permets juste, j'insiste sur la motivation très précise des faits qui justifient la sanction.
Merci. Donc on arrive à la troisième et dernière partie, finalement. Ce n'est pas terminé, une fois que la réunion du Conseil est terminée. Que se passe-t-il après la réunion du Conseil ? Que se passe-t-il une fois que le Conseil de discipline a levé sa séance ?
Alors, l'audience est levée, pourrait-on dire. Le procès verbal va être notifié aussitôt à l'élève et à son représentant légal. Cette décision, donc, lui sera normalement envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Et la décision donc, de sanction doit contenir pour être valable les voies et délais de recours. Le procès-verbal va mentionner les noms du président, du secrétaire de séance, des membres du conseil de discipline et des autres personnes qui ont assisté à la réunion. Le procès-verbal, encore lui, rappelle les griefs invoqués à l'encontre de l'élève en cause et les réponses aussi qu'il a pu fournir aux questions posées au cours de la séance, ainsi que les observations présentées par la personne chargée de l'assister. Bien. Le procès-verbal demeure aux archives de l'établissement pendant une durée de 10 ans. Une copie en est adressée au recteur d'académie dans les 5 jours qui suivent la séance.
Alors, que faire de l'élève s'il est exclu définitivement ?
Alors, en vertu de l'article D511-43, l'IADAZEN doit pourvoir à l'inscription d'un élève exclu définitivement, sans sursis, dans un autre établissement ou au Centre national d'éducation à distance. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, s'il a plus de 16 ans finalement, un élève exclu doit pouvoir terminer son cursus scolaire et se présenter à un examen. Donc on doit tout faire pour pouvoir rescolariser l'élève exclu dans les plus brefs délais.
Les sanctions peuvent-elles être effacées du dossier administratif ?
Oui, c'est vrai, mais selon des règles assez strictes. L'avertissement est effacé à l'issue de l'année scolaire sous réserve que l'élève ait respecté l'engagement, précisant les conditions de mise en œuvre. Le blâme et la mesure de responsabilisation sont effacés à l'issue de l'année scolaire suivante. L'exclusion, lorsqu'elle n'est pas définitive, est effacée à l'issue de la deuxième année scolaire suivant celle de la sanction. S'il change d'établissement, un élève peut demander au chef d'établissement l'effacement de la sanction. Mais attention, le chef d'établissement n'est pas obligé d'y faire droit. C'est une possibilité, mais ce n'est pas une obligation. L'ensemble des sanctions figurant au dossier administratif de l'élève est effacé au terme de sa scolarité dans le second degré. Et ce que je n'ai pas dit, c'est que pour l'exclusion définitive, eh bien, il n'y a pas d'effacement de la sanction.
Merci. Et peut-on, l'élève ou sa famille, peut-il contester la décision de sanction ?
Alors oui, évidemment, c'est un principe général du droit. Toute décision administrative peut être contestée devant le juge administratif et surtout une mesure défavorable comme peut l'être une sanction. Alors, quelles sont les étapes et quelles sont les procédures ? Il y a tout d'abord ce qu'on appelle un recours préalable obligatoire. Comme en dispose l'article R511-49 du Code, la décision du conseil de discipline peut faire l'objet d'un appel devant le recteur dans un délai de 8 jours, à compter de la réception du courrier recommandé avec accusé de réception contenant la décision, donc le procès-verbal que j'ai évoqué il y a quelques instants. Cependant, il faut retenir que cette procédure ne suspend pas la décision du conseil, qui reste exécutoire, c'est-à-dire que l'élève est exclu, même si on fait appel, il est exclu d'établissement. Les règles de composition de la commission académique d'appel en matière disciplinaire sont déterminées aux articles D511-51 et D511-52. La commission examine sur la forme et sur le fond la décision du conseil de discipline de l'établissement, délibère et propose un avis au recteur qui arrête une décision qui peut confirmer, modifier ou annuler partiellement ou totalement la sanction du conseil de discipline de l'établissement. La décision du recteur va se substituer à celle prononcée par le conseil de l'établissement. Cela signifie donc que c'est bien la décision finale du recteur qui est la seule et la vraie décision de sanction. En cas de désaccord avec cette nouvelle décision, eh bien les représentants légaux de l'élève mineur ou l'élève majeur peuvent déposer cette fois-ci un recours contentieux, généralement ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, devant le juge administratif. Il faut savoir également que les intéressés, outre le recours pour excès de pouvoir, peuvent déposer ce qu'on appelle un référé suspension, un référé suspension, voire un référé liberté, s'il est porté atteinte de manière grave et illégale à une liberté fondamentale, ce qui reste encore à démontrer. Les parents ont 2 mois pour contester devant le juge administratif. Et à ce titre, le juge, ça il faut être très attentif, le juge laisse à l'administration une certaine marge de manœuvre d'appréciation dans le choix de la sanction. Sauf en cas, évidemment, d'erreur manifeste d'appréciation, si on se trompe totalement. ou sauf si la décision est totalement disproportionnée. Donc ça, c'est un point de vigilance. Le juge va laisser finalement l'administration assez autonome dans le choix de l'engagement des poursuites, le choix de l'appréciation des faits et le choix de la sanction. Ce sur quoi il va être attentif, c'est le respect inconditionnel des procédures et la proportionnalité de la décision et le respect de la garantie des droits et des libertés. Je précise enfin, en lien avec la question précédente, que si l'autorité administrative s'aperçoit qu'une sanction est illégale, pour une raison ou pour une autre, qu'on s'est trompé, que ce n'était pas la bonne personne, etc., eh bien, elle peut retirer la sanction et donc l'effacer définitivement à tout moment, même si le juge n'a pas été saisi.
Merci Raphaël pour ces précisions. Et existe-t-il un système de sursis ?
Alors oui, il y a un sursis possible. L'autorité disciplinaire qui a prononcé une sanction assortie du sursis à son exécution détermine la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué. Cette durée ne peut être inférieure à l'année scolaire en cours et ne peut excéder celle de l'inscription de la sanction au dossier administratif de l'élève. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, la durée pendant laquelle le sursis peut être révoqué ne peut excéder la fin de la deuxième année scolaire suivant le prononcé de la sanction. C'est un petit peu compliqué, j'en conviens. Le délai court à compter de la date à laquelle la sanction est notifiée. L'élève ou ses représentants doivent être informés des conséquences qu'entraînerait un nouveau manquement au règlement antérieur durant la période de sursis. Seul le conseil de discipline peut prononcer la révocation du sursis s'appliquant à une exclusion définitive. Ça, c'est très important aussi. La révocation entraîne donc la mise en œuvre de la sanction à laquelle il s'applique. Et sur le fondement de l'article R511-13 du Code, lorsque les faits pouvant entraîner une sanction d'un niveau égal ou supérieur à celui d'une précédente sanction sont commis dans la durée du sursis, l'autorité disciplinaire peut prononcer soit la seule révocation du sursis, soit la révocation du sursis et une nouvelle sanction qui, elle, peut être assorti d'un sursis. Je sais que c'est un petit peu complexe.
Effectivement, mais ça a le mérite d'être au moins précisé. Alors, peut-on imaginer des mesures d'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une procédure disciplinaire ?
Alors, l'objectif, c'est bien évidemment la prévention de l'échec scolaire. Ces mesures doivent être prévues au règlement antérieur et s'appliquent durant la période d'exclusion temporaire et dans le cas d'interdiction d'accès à l'établissement prononcé à titre conservatoire. Toute décision d'exclusion temporaire ou définitive devra être accompagnée de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité de l'élève et à faciliter sa rescolarisation, notamment lorsqu'elles font suite à la réintégration d'un élève exclu temporairement pour des faits de violence. Mais là, ce sont des mesures pédagogiques sur lesquelles il ne m'appartient pas de me prononcer.
Souvent, la question des classes relais revient en cas d'exclusion. Pourquoi ?
C'est vrai, c'est quelque chose d'assez récurrent, peut-être même qui prend un petit peu d'ampleur. Les classes relais, dont l'encadrement peut inclure des éducateurs spécialisés, comprennent des élèves présentant des problèmes de comportement et rencontrant des difficultés d'apprentissage. Elles sont créées par le recteur et favorisent la réintégration dans le cursus de formation. L'article D511-43 permet depuis la rentrée 2019 à l'autorité académique d'inscrire un élève exclu définitivement de son établissement dans une telle classe sans le consentement préalable de ses représentants légaux. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin du consentement des représentants légaux pour affecter un élève exclu définitivement dans une classe relais. Cette inscription est à titre transitoire dans la limite d'une année scolaire. Cette inscription, elle est donc justifiée par les circonstances ayant conduit à l'exclusion définitive de l'élève et les besoins spécifiques de ce dernier. Cela permet donc à l'élève de continuer sa scolarité dans un environnement et dans un cadre adapté. L'élève est également inscrit dans un établissement scolaire qu'il intégrera à l'issue de son passage en classe relais.
Merci beaucoup, Monsieur Raphaël Mata-Duvigneau, pour la richesse de ces échanges et de cette ressource juridique complémentaire à la fiche du film annuel traitant du conseil de discipline.
Merci à vous.
Je vous rappelle que l'ensemble de nos podcasts est accessible via les principales plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts ou encore directement sur notre site internet www.ih2ef.gouv.fr, sur lequel vous retrouvez également de nombreuses ressources dont l'ensemble des fiches du film annuel. À tout bientôt pour notre prochain podcast et d'ici là, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À bientôt, merci.